les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Après 14 années de voyage, à dos de yak, de poney, en chaise à porteur, mais aussi à pied, des années de travail, de rencontres, 4 entrées au Tibet où elle fut refoulée en atteignant la zone interdite, Alexandra David-Nel va réussir enfin à entrer à Lhasa et pouvoir envisager son retour en France qui s'effectuera en 1925. Mais que d'épreuves durant ces 4 mois d'approche. C'est la 5e fois que je me mets en route pour la zone fermée du Pays des Neiges, écrit Alexandra David-Nel. Le désir de venger mon propre insuccès n'était pourtant pas uniquement ce à quoi je visais. Je souhaitais, bien davantage, attirer l'attention sur le phénomène singulier à notre époque de territoires devenant interdits. Depuis plus de 2 ans, en fait, depuis mes premiers démêlés avec les autorités tibétaines, le jeune Afour Yongdel et moi avons inlassablement discuté les moyens de « disparaître », entre guillemets, de nous débarrasser de notre entourage et de faire perdre nos traces pour changer de personnalité. Qu'avais-je osé rêver? Dans quelle folle aventure étais-je sur le point de m'engager? Je me rappelais celle qui l'avait précédée. Le souvenir me revenait de fatigues endurées, de dangers courus, d'heures où la mort m'avait frôlé. C'était cela, et bien pire, qui m'attendait. Et quelle en serait la fin? Triompherai-je? Arriverai-je à Lhasa, riant de ceux qui ferment le Tibet? Serai-je arrêté dans ma route, ou vaincu pour jamais? Finirai-je au fond d'un précipice, sous la balle d'un brigand? Ou bien emporté par une maladie au pied d'un arbre ou dans une caverne, comme une bête des forêts? Qui pouvait le savoir? Ils quittent donc le Sichuan et se mettent en marche avec un bagage très réduit, certains objets de première nécessité. Seulement 2 porteurs les accompagnent et seulement pour la première partie. Ensuite, en approchant de la frontière tibétaine, il s'est agi de se débarrasser des 2 innocents, comme Alexandra l'écrit, ces porteurs qui les accompagnaient. Alexandra prétexte une trop grande fatigue, leur dit qu'elle allait se reposer quelques jours et qu'elle trouverait alors d'autres porteurs. Elle paye généreusement les 3 journées et ils partent contents. À partir de maintenant, personne ne doit connaître leur trajet et ils doivent passer pour 2 pauvres êtres, une vieille mère et son fils Lama, mendiant leur modeste nourriture. Alexandra écrit « Après un copieux repas composé de tsampa, de viande séchée, et de thé au beurre, nous revêtîmes nos habits tibétains. Je ne puis guère dire que nous nous déguisions. Afour Yongden reprit le costume de lama, et quant à moi, je m'étais pendant des années habillée à la mode tibétaine. La seule nouveauté pour nous consistait dans la pauvreté voulue de nos vêtements actuels. Une vieille ceinture rouge tiendrait lieu de coiffure. Enroulée autour de ma tête, elle figurait à peu près le turban des femmes du Lhotseqian. Et la qualité de veuve d'un lama sorcier que je me donnais ne provoquerait aucune remarque. Les femmes des régions que j'allais traverser ont le teint foncé, pareil à celui de gitane. Aussi, je me poudrais avec un mélange de braise pulvérisée et de cacao emprunté à l'unique boîte que nous possédions. La préparation est singulière, j'en conviens, mais les fournisseurs de théâtre n'ont point encore ouvert de succursale dans les forêts tibétaines. Nous partîmes à la brume, après avoir caché dans les broussailles les diverses pièces de vêtements chinois que nous abandonnons. Alors, la frontière avec le Tibet est marquée par le col du Doker à 5412 mètres. D'accès très périlleux, il est le seuil de la région défendue. Au col lui-même et sur les crêtes voisines flotte un nombre exceptionnel de drapeaux portant des inscriptions mystiques, écrit Alexandra, qui répète le vœu bouddhiste que tous les êtres soient heureux. Pourtant, ce col fut l'une des innombrables épreuves qu'Alexandra et Afour durent affronter durant cette expédition clandestine. Grâce à son célèbre livre, qu'Alexandra a écrit tout de suite après son retour, nous avons des récits détaillés, des anecdotes vécues durant ces mois de marche en hiver, avec la neige et dans des chemins bien difficiles, dont voici quelques exemples. Ils partent au petit matin, ou plutôt en fin de nuit. Nous sommes prêts en quelques minutes. Notre toilette consiste simplement à nouer notre ceinture et nos bottes. Au dehors, la lune, masquée par une montagne, répand qu'une faible lueur sur la vallée. Le vent souffle violemment et le froid est perçant. Même enveloppée dans les longues manches de ma robe tibétaine, mes doigts se raidissent douloureusement près de se geler et j'ai peine à tenir mon bâton. Après quelques heures de marche, le jour pointe, pâle, grisâtre, puis le soleil apparaît enfin. Et au fur et à mesure que nous progressons, la neige, accumulée en quantités énormes dans les gorges transversales, s'avance et s'épaissit sur le sentier. Alexandra s'inquiète de l'altitude d'Afour. Pourquoi la neige le préoccupe-t-elle autant? Et il se mit à descendre rapidement la pente blanche. Alexandra se recueille un instant avant de quitter le sommet et, comme toujours, fait de vœux pour le bonheur de tous les êtres et elle tente de rattraper Afour avec de grandes enjambées. Mais il est déjà très loin. En dépit de mes efforts, Yongden me distançait de plus en plus. Afin de le rattraper, j'imaginais de me dispenser des zigzags qui atténuaient la raideur de la pente et de procéder en ligne droite. Mais alors, je tombais et glissais absolument comme une course de toboggan, avec la différence que j'étais moi-même à la fois le toboggan et son conducteur. Je fus assez heureuse pour pouvoir saisir mon bâton près de son bout ferré et de m'en servir tant bien que mal pour me diriger. Et de cette façon, je passais avec la rapidité d'un express devant mon compagnon ébahi et m'arrêtais de loin devant lui. Lorsqu'il comprit que je ne m'étais faite aucun mal, Yongden me complimenta en plaisantant sur la façon magistrale dont j'avais exécuté mon exercice sportif bien involontaire. Puis nous découvrîmes vers midi un sapoug, c'est-à-dire une caverne en terre, qui fut saluée avec enthousiasme. Nul combustible. Nous mangeâmes quelques poignées de tsampa, laissant fondre un peu de neige dans notre bouche en guise de boisson, puis, exténués par deux nuits passées presque sans sommeil, nous nous endormîmes profondément. Notre sommeil se prolongea jusqu'au lendemain à l'aube. Dans une interview pour la radio suisse en 1956, Alexandra a aussi raconté plusieurs de ses épisodes difficiles. Devant les villages, on s'en allait mendier, puisqu'on était des mendiants. On s'en allait mendier et puis on chantait des choses religieuses aux portes des villages. Oh, je fais ça très bien du reste. Mon fils aussi, mais lui est tibétain, naturellement. Et alors on récoltait des aumônes. Oh, quelquefois c'était pas très bon. D'autres fois c'était à peu près mangeable. Et puis, quand on n'en avait pas, eh bien ma foi, on jeûnait. Ça arrive, ces choses-là. Il nous est arrivé de rester 6 jours sans manger. Il n'y avait plus rien. Nous étions dans les neiges, absolument perdus. On a traversé des montagnes, alors enfouies dans la neige. Et il neigeait, il a neigé comme ça pendant ces 6 jours. Enfin, nous avons trouvé une espèce de hutte qui était habitée pendant l'été par des pasteurs qui montaient là avec des troupeaux. Et à ce moment-là, il y avait une provision de bouse de vache séchée dans le coin de cette hutte.
Thank you.
En effet, parfois les repas sont plus que frugaux. Une fois où Afour avait aidé un paysan à retrouver sa vache, il avait eu l'espoir d'un bon repas et, qui sait, quelques pièces. Mais arrivé à la maison de ce paysan, celui-ci prenant Afour pour un savant et pensant surtout qu'il avait un pouvoir magique, il lui demande de bénir toutes les pièces de la maison, et ses biens, les étables, les animaux, puis les humains, car les voisins sont arrivés, bien sûr. Quand enfin les dévotions se terminent, on sert alors le repas du soir. Déception. Une soupe aux orties séchées, sans viande. Nous sommes loin du festin que nous escomptions, écrit Alexandra. Ils vont ensuite dormir dans une pièce de terre battue, un lambeau de vieux sac de la grandeur d'une serviette et sa couche. Comme les petites gens du Tibet, ils dorment repliés sur eux-mêmes, presque en boule, comme les chiens, car dormir étendu de tout son long est considéré comme un luxe appartenant aux seules personnes de qualité. De plus, ils sont plusieurs, les filles de la maison et la servante. Le matin, chacun reprend son écuelle individuelle qui a été léchée consciencieusement la veille, ce qui sert de nettoyage. Et l'on y mange la même soupe que la veille, mais dans laquelle on a rajouté de l'eau. Dans son livre « Voyage d'une Parisienne à Lhasa », Alexandra évoque cette condition de mendiante à laquelle, évidemment, elle était loin d'être habituée. « J'allais maintenant expérimenter par moi-même nombre de choses que j'avais jusque-là observées seulement à distance. » Je m'assoirai à même le plancher raboteux de la cuisine, sur lequel la soupe graisseuse, le thé beurré et les crachats d'une nombreuse famille étaient libéralement répandus chaque jour. D'excellentes femmes, remplies de bonnes intentions, me tendraient les déchets d'un morceau de viande coupé sur un pan de leur robe, ayant, depuis des années, servi de torchon de cuisine et de mouchoir de poche. Il me faudra manger à la manière des pauvres airs, trempant mes doigts non lavés dans la soupe et dans le thé pour y mélanger la tsampa, et me plier enfin un nombre de choses dont la seule pensée me soulevait le cœur. Mais cette dure pénitence aura sa récompense. Mon vêtement banal de dévote nécessiteuse me permettra d'observer maints détails inaccessibles aux voyageurs occidentaux et même aux Tibétains des classes supérieures. Alexandra et Afour furent les hôtes d'un grand nombre de gens de caractères différents. Elle écrit « Que ne puis-je raconter une à une toutes mes étapes ? Un soir, un villageois astucieux, avec toutes les apparences de la plus cordiale honnêteté, ne nous fait-il pas coucher dans une chambre hantée où les démons affamés avaient, croyait-on, élu domicile ? Cela tout simplement pour voir si nous en sortirions vivants le matin et s'ils pouvaient se risquer à l'habiter de nouveau. » Sur ces chemins, on fait parfois des rencontres malheureuses comme des brigands. Et voici le récit qu'Alexandra écrit à Philippe, mais évidemment beaucoup plus tard, après Lhasa. Je marchais en tête et le petit un peu loin en arrière, en pleine forêt. Sept grands gaillards, armés de longs sabres, arrivent, venant de la direction opposée à la nôtre. L'un d'eux me demande où je vais, où je réponds brièvement et passe. Bien que l'individu essaie de me barrer le chemin, mais il n'insiste pas. Je crois tout terminé. Je me retourne et vois Albert entouré, mais la conversation a l'air paisible, de sorte que je ne me doute de rien. Pourtant, voici qu'un des hommes cueille quelque chose dans le coin du mouchoir du petit, et les autres mettent la main sur son fardeau comme pour l'en soulager. Je comprends, mais que vais-je faire? Ils sont sept, le petit est cerné. Que je tue ou blesse un des brigands, mon gamin est tué et moi aussi. Laisser emporter nos bagages, c'est dangereux. J'ai quelques fourrures qui ne vont pas avec mes haillons de mendiant et peuvent donner aux bandits l'idée de nous fouiller pour voir si nous n'avons rien de plus précieux sur nous. Or, nous avons de l'or caché dans nos robes. Non seulement être volé serait malheureux, mais éveiller des soupçons sur notre identité serait pire. C'est alors que je trouvai le truc suivant. Je me suis mis à hurler en désespéré, à invoquer tous les dieux tibétains. Oh, les mauvaises gens qui dépouillent une pauvre vieille mère des deux seules roupies qu'elle avait. Ces roupies, son fils le lama les avait gagnées en récitant des offices pour les morts. Et qu'est-ce que je vais faire? Mourir de faim, bien sûr. Et je levai les bras, et je m'asseyai sur les rochers, et je me relevai. et il n'y avait aucun opérateur cinématographique pour me photographier. Oh, j'y pensais et je le regrettais, mais j'ai dû être sublime. Après tout, j'ai été artiste et je m'en souvenais. Bref, les bandits furent émus. Ils rendirent l'argent, demandèrent à Albert de les bénir, ce qu'il fit avec dignité, et à moi de réciter des prières à leur intention. Et nous partîmes, moi lentement, en chancelant comme brisé par l'émotion. Puis, hors de vue, nous filâmes. « Oh, révérende !» disait le gamin. « Comment avez-vous pu penser à cela ? Ils ne reviendront certes pas nous chercher cette nuit. Ils sont convaincus que nous n'avons que ces deux précieuses roupies. » C'était au pays des Popas, de mauvais renom, où les Tibétains hésitent à s'aventurer. Nous marchâmes une partie de la nuit. Vers minuit, nous nous couchions sous une pluie fine dans les mousses trempées. Pas de feu, pas de thé. Encore une fois, le jeûne de 24 heures. Oh, le beau, l'unique voyage! Je me demande parfois si je ne l'ai pas rêvé. Aux environs de la période de Noël, ils continuent de marcher, tandis que la nuit était venue et que la neige s'était remise à tomber. Alexandra écrit « Sous le ciel d'un noir d'encre, le paysage nocturne s'illumina alors de façon étrange. Une lumière diffuse, pâle et morne, parut sourdre du ciel tout blanc et s'échapper des arbres chargés de neige. Transformée par cette fantasmagorie, la forêt prit l'aspect insolite d'une sorte de royaume d'ombre. Blanc de la tête aux pieds, nous continuions en boitant notre marche taciturne parmi ce décor singulier, pareil à des fantômes se rendant à l'appel d'un sorcier tibétain ou à deux minables serviteurs de quelque Père Noël indigent. Le Père Noël, mais au fait, n'étions-nous pas en décembre ? Peu à peu, Yongden, qui s'était foulé la cheville, s'était laissé distancer. je poursuivais ma route dans une sorte d'hébétement, sans tendre à aucun but. Village, cabane, abri de n'importe quelle sorte, semblaient hors de portée. Nous coucher dans la neige était impossible, alors quoi ? Un choc soudain me tira de ma torpeur. Je m'étais heurté à quelque chose de dur. Je tâtais l'objet, c'était une pièce de bois dépassant d'une palissade rustique. Une palissade ! Donc, un camp d'été de pasteurs ! Alors, nous avions un abri pour la nuit. J'osais à peine croire à cette heureuse chance, puis je distinguais vaguement une grande cabane carrée et basse, et plusieurs toits semblant être ceux des étables. Je criai la bonne nouvelle à Four. « Dirou, dirou, kampa chidoug ! Ici, ici, il y a une maison !» Nous trouvâmes une assez grande quantité de bouse et de bois sec. Bientôt, Yongen et moi nous fûmes installés, chacun d'un côté d'un foyer, un grand feu brûlant entre nous. La chaleur qui se répandait dans la maisonnette me semblait délicieuse après les nuits glaciales passées. Et avant de nous endormir, nous bûmes un bol d'eau chaude, saupoudrée d'une pincée de tsampa, laissant le peu de thé qui nous restait pour notre déjeuner du lendemain. Mais le lendemain matin, ils ne peuvent repartir. À Four à cause de sa cheville, et Alexandra ayant les orteils brûlés par la neige et à moitié gelés, couverts d'ampoules et de plaies saignantes. Ils tentent l'après-midi de repartir, mais la neige tombait trop fort et reviennent à la cabane. Ils continuent de boire de l'eau chaude, provenant de la neige fondue pour tenir lieu de nourriture. Comme j'exprimais tout haut mes sentiments et souhaitais en plaisantant que quelque divinité de la montagne daignât nous témoigner sa pitié en nous apportant gros comme une noix de beurre ou de graisse, Yongden me regarda avec insistance d'une façon particulière. « Qu'y a-t-il ? » lui demandai-je. « Eh bien, répondit-il en hésitant, si vous vous montriez pas trop exigeante quant à la graisse, je pourrais peut-être remplir le rôle de dieu de la montagne. » « Comment cela ? » Et il se mit à rire. « Jetsunema, dame Lana, lama, dit-il, vous êtes devenue à peu près tibétaine à bien des égards. » Mais peut-être ne l'êtes-vous pas suffisamment pour agir comme un véritable Tibétain le ferait à votre place. Continuez, dit Alexandra. Vous reste-t-il quelque chose de mangeable dans votre sac? Oui, déclara-t-il d'un ton moqueur. Un petit morceau de lard avec lequel je frottais les semelles de nos bottes pour les rendre perméables et quelques rognures de cuir provenant des semelles neuves que j'ai cousues hier. Jetez-les le tout dans la marmite et jetez-y un peu de sel si vous en reste encore, criai-je joyeusement, une véritable âme tibétaine surgissant en moi. Alors en fait, il s'agit de cuir de yak qui est simplement séché puis assoupli en le frottant avec du lait caillé souvent et qui n'a point été tanné. De très nombreux récits composent le livre d'Alexandra, Voyage d'une Parisienne à Lhasa. 4 mois de marche, d'aventure, souvent avec la faim, la peur de perdre son chemin, la rencontre des brigands, etc. Il quitte Détène un matin à l'aurore pour effectuer leur dernière étape vers Lhasa. Alexandra écrit « Le temps était beau, froid et sec, le ciel lumineux. Le soleil levant fit apparaître devant nous, encore lointain, et pourtant s'affirmant déjà majestueux et dominateur, le grand palais du pontife lamaïste. « Cette fois, c'est la victoire » dis-je à Yongden. Mais lui m'imposa le silence. « Non, pas encore. Ne dites rien, ne vous réjouissez pas. Que sait-on ? Il nous faut encore traverser le Kiyuchu. Et là peut se dresser un obstacle. » Nous le traversons dans un bac orné d'une tête d'animal. Une foule composite, gens et bêtes s'y entassent. Quelques minutes suffisent à la traverser. Personne n'a daigné jeter un regard sur des guenilleux de notre espèce. Il en passe des centaines chaque année. Nous voici sur le territoire de Lhasa, mais encore loin de la cité elle-même. Yongden réprime encore une fois mes velléités d'entonner un chant triomphal, même réduit à un murmure. Mais que redoute-t-il maintenant ? Nous sommes arrivés. D'ailleurs, le ciel nous donne un nouveau signe de la son complicité paternelle. À peine avons-nous débarqué que l'atmosphère, jusque-là très calme, se trouble soudainement. Dans l'espace de quelques minutes, une tempête furieuse se lève, soulevant jusqu'au ciel des nuages de sable. Des ombres indistinctes nous croisent, des gens courbés en deux, se voilant la figure avec leurs longues manches ou le pan de leur robe. Qui donc pourrait nous voir ainsi? Qui donc pourrait nous reconnaître? Le soir, près de nous endormir dans notre taudis, je demandais à mon fidèle compagnon de route « M'est-il permis maintenant de dire que nous avons gagné la partie ?» Il mit dans son exclamation en sourdine toute l'allégresse dont son cœur débordait. « Nous sommes à Lhassa !» Si beau que soit le paysage encadrant Lhassa, il ne retiendrait cependant pas l'attention dans un pays riche comme est le Tibet, en site d'une majesté exceptionnelle, si le Potala ne lui conférait pas un caractère tout à fait particulier. C'est donc un véritable exploit réalisé par cette femme incroyable, connue aujourd'hui dans le monde entier. Le 10 avril 1925, Alexandra Davinelli à Fouryongden embarque à Colombo pour arriver en France un mois plus tard, après 14 années d'absence. La grande exploratrice est célèbre et très sollicitée. Tous les journaux à travers le monde parlent de son exploit. Ainsi, The Indian Daily Mail, dont l'Alexandra fait la une du quotidien le vendredi 23 octobre 1924. L'appel du bouddhisme mène une Française à travers des régions inexplorées d'Asie. Madame Alexandra Davinelle, orientaliste, affronte toutes les formes de périls et de difficultés dans des voyages remarquablement audacieux. Elle est entrée dans Lhassa. Mais un énorme travail l'attend encore, l'écriture des livres. Voilà. Plus tard, nous pourrons peut-être reprendre nos émissions, évoquer son installation à Digne, ses livres, son second voyage, et enfin sa vie d'écriture jusqu'à sa mort en 1969 à 101 ans. Portez-vous bien. À bientôt de vous retrouver, du moins à l'espace Alexandra Davinelle, l'espace de l'association au centre-ville de Digne. Au revoir à tous.